Le week-end, Matt et les filles jouent le jeu Fou Rire. Défis et découvertes, c'est ludique.
Amis joueurs, amis joueuses, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est Ludique, l'émission qui fait rimer plaisir, partage et jeux de société. Oui, parce que pendant une heure, eh bien, je vais vous embarquer dans l'univers ludique sous toutes ses formes. Des nouveautés, des jeux pour les enfants, des jeux sortis il y a un an pour voir s'ils sont toujours d'actualité ou pas. Sans oublier des jeux plus anciens qui méritent toujours une place à votre table. Alors à mes côtés, vous le savez, mes trois chroniqueuses, Anne-Gaëlle, Béa et Morgane, pour débattre, tester et vous conseiller. Et parce que le jeu, ce sont aussi celles et ceux qui les créent, eh bien, j'accueillerai aujourd'hui un invité du monde ludique qui viendra partager son univers et sa passion. Alors installez-vous confortablement, sortez les dés, mélangez les cartes. Moi, c'est Matt et vous écoutez C'est Ludique.
C'est Ludique, le plaisir de jouer à la radio.
Et comme tous les samedis, pour commencer cette émission de C'est Ludique, on retrouve bien sûr Anne-Gaëlle du compte Instagram Les Chroniques des Meeples. Salut Anne-Gaëlle.
Salut, bonjour tout le monde.
Ça va bien, on se remet de Cannes petit à petit?
Ouais, on s'y remet, ouais. J'ai vraiment du mal. Tu sais, comme un peu quand tu commences à être vieux et que tu fais une soirée où tu rentres tard,
c'est
et
ça.
Tu mets une semaine à te remettre, et ouais. Bah pareil.
C'est ça, moi
ma voix... Ça fait deux semaines quand même.
Moi j'ai ma voix qui est partie cette semaine, là elle revient petit à petit, mais c'est pas encore ça. Hein.
Les gens peuvent mesurer chaque jour ton progrès.
Oui, voilà, ouais. Cette semaine, en tout début de semaine, on m'a dit que j'étais Barry White. Donc, c'était pas mal. Du coup, on va parler d'un jeu pour les enfants.
Oui, un jeu pour les enfants qui est sorti déjà il y a quelques temps, mais qu'on n'avait pas eu la chance de pouvoir tester, que je n'avais pas pu tester avec les enfants d'ici là. Donc, je l'ai ramené dans mes bagages de Cannes.
Ouais.
Et donc, on y a joué avec Louis. Et alors, c'est son nouveau jeu préféré.
Préféré.
C'est son nouveau jeu préféré.
D'accord, ok.
Et ce jeu, il s'appelle Délicieuse Lave.
Ah, avec un volcan.
Avec un volcan. Et alors, pour une fois, souvent, le volcan, il sert de timer en disant, tu vois, dès que le volcan, il rentre en éruption, paf, le jeu, il est fini.
Ouais.
Tu vois, on a déjà connu ce genre de jeu. Et ben là, pas du tout. On est des petits dragons et en fait, on se nourrit de lave.
Ah, d'accord.
Donc, nous, on veut de la lave. Le volcan, ça y est, il est déjà en éruption. Et donc, nous, on va essayer, en fait, d'aller grignoter les laves qui valent le plus de points. Et bien sûr, les dragons veulent de la lave bouillante.
Ah bah oui, plus c'est chaud,
donc
mieux
ça. Donc, on va avoir de la lave qui vaut plus ou moins de points selon la couleur.
Mmh.
Alors, pour déjà que vous ayez un petit peu une idée, et avant quand même que je vous explique le jeu, c'est un jeu à partir de 5 ans, mais clairement, c'est le comptage de points, je pense, qui donne le 5 ans.
D'accord.
Sinon, niveau mécanique, c'est pas compliqué.
Ok.
2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes.
Mmh.
Alors, c'est un jeu de Sophia Wagner, c'est illustré par Harvey, et en fait c'est localisé chez nous grâce à Schmitt. Et d'ailleurs, je tiens quand même à souligner que niveau illustration, les jeux à l'allemande commencent à nous faire des choses vraiment chouettes pour
les
enfants.
Ah, ça c'est bien.
Tu vois, des fois on a encore peur des années 80 quand
ouais.
on regarde le jeu, et puis bah là non, tu vois, on est sur quelque chose de moderne, et quand on est sorti, en fait on a sorti les jeux qu'on a ramenés de Cannes, Louis, le premier jeu vers lequel il est allé c'était celui-là. Bon, après il y avait des dragons,
ouais,
ça aide. Mais en tout cas visuellement c'est le premier vers lequel il est allé.
Mm-hmm.
Alors du coup, ce qui est chouette dans Délicieuse Lave, c'est que vous allez jouer dans la boîte, donc la première fois il y a un petit peu de mise en place,
ouais.
On va faire une espèce d'origami avec les... Enfin on va faire du montage pour faire des dragons qui
d'accord.
ont la bouche ouverte. Et on va devoir en fait tout dépuncher et positionner des petits jetons. En fait, c'est des jetons en bois, ronds, vraiment des petits jetons ronds qu'on vient installer. Il y a des encoches en fait dans le thermoformage et ça fait comme des espèces de traînées de lave. Et par-dessus, on vient mettre un petit carton qui laisse apparaître des endroits pour voir justement les jetons de lave et essayer de prévoir ce qui va se passer.
D'accord.
Et dans ce thermoformage, en fait, il y a des trous, ce qui fait que quand on pousse d'un côté, et ben, il y a des jetons qui sortent d'un peu partout, comme si c'était la lave qui progressait au fur et à mesure dans la boîte.
Comme si on était à la fête foraine, là, tu sais, tu
pousses
les jetons.
Ouais, c'est ça, carrément. Et en fait, on a un petit dragon qu'on met à la sortie de la boîte, et quand on pousse, on va essayer de faire tomber de la lave super chouette dans notre bouche. Donc, il y a trois types de lave. Il y a la lave qui vaut 3 points, la lave qui vaut 2 points, la lave qui vaut 1 point, et puis la lave éteinte. Si on récupère dans notre gueule de dragon de la lave éteinte, elle va nous retirer le meilleur jeton de lave.
Oh,
en gros, elle
cool,
va éteindre
ça.
L'autre. Quoi.
Oh, non, c'est
donc
pas
c'est,
cool.
c'est un petit peu moins cool. Donc, comment ça va se passer? Donc, chacun a son petit dragon à la gueule ouverte, prêt à recevoir de la lave.
La
on lance un dé, chacun notre tour, on va lancer le dé. Et en fait, si je fais 5, eh ben, je vais prendre 5 jetons dans un pochon.
D'accord.
Je décide où je mets mon dragon. Les autres décident, après dans le sens des aiguilles d'une montre, où ils positionnent leur dragon. Mmh. Et après, c'est le joueur qui a lancé le dé qui insère où il veut les petits jetons pour en faire tomber. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer, l'enfant va essayer de réfléchir en disant « Attends, je vais mettre en face pour essayer de faire tomber, etc. » Bon, après, c'est plus aléatoire que ça.
Ouais.
Le pouce-pouce, comme dans la fête foraine, hein, comme tu dis, des fois, mais puis ça, c'est bien, des fois, non. Et bien, en fait, on va faire ça, puis on va essayer de faire tomber des fois des jetons noirs. Quand on voit qu'il y en a un qui a un rouge et un noir derrière, ben, on peut se dire « Attends, je vais essayer de le faire pousser pour que le rouge tombe, mais qu'après, le noir tombe aussi.
Ouais. »
Voilà. Donc, c'est, et voilà, on joue chacun notre tour. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jetons en fait dans le pochon.
D'accord.
Et ce qui est voilà un peu plus compliqué, je dirais, c'est au niveau du comptage parce que on a des jetons qui valent 3, des jetons qui valent 2, des jetons qui valent 1 et d'autres qui annulent. Donc potentiellement c'est là où l'enfant va besoin d'être accompagné s'il est petit, mais en tout cas Louis c'est le cas. Mais ils ont réfléchi parce que sur la règle de jeu quand on la retourne, il y a une petite piste de score, ce qui fait que plutôt que compter dans la tête, ce qui peut être difficile, et ben là on va pouvoir avancer notre petit jeton. Chacun notre tour comme une piste de score. En réalité, ce n'était pas prévu sur le jeu, mais à côté. Et au moins, ça ne rajoute pas de frais supplémentaires. Mais ça permet de suivre un petit peu. Mais en tout cas, l'effet magique du jeu joué, ça marche très très bien.
Ouais. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est le jeu préféré de Louis en ce moment.
C'est le jeu préféré.
Préféré. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. On se retrouve dans un instant pour faire le débrief de la semaine.
Avec grand plaisir. À tout de suite.
Je viens comme je suis.
Le week-end, Matt et les filles jouent le jeu Fou rire, défis et découvertes, c'est ludique.
Et comme tous les samedis, bien sûr, Anne-Gaëlle est restée avec moi pour faire le débrief des jeux que j'ai présentés cette semaine. Anne-Gaëlle,
ouais,
je pense que tu as joué à beaucoup de jeux cette semaine que j'ai présenté.
Oh, peut-être, je sais pas. Tiens-toi prêt.
Allez, on commence avec le premier jeu, ce qui s'appelle Cup the Crab.
Oui.
Tu as joué ?
J'ai joué, ouais. Et j'y avais même joué l'année dernière. Il était présent au Fige. On commençait à le présenter.
Ouais.
Et du coup, j'avais déjà joué là. Et puis, bah, ça y est, il est arrivé en Oka française. Et c'est un jeu où, au début, j'avais joué avec les mauvaises règles.
Ah, pourquoi il y a des mauvaises règles
ça...
Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème, oui, sur les règles. Parce qu'il y en a plein qui disent j'ai pas aimé. Ah, mais peut-être que tu as joué avec les mauvaises règles. Alors, c'est quoi ces mauvaises règles ?
Bah, je sais plus ce que c'était, mais. En gros, ça marchait pas très bien. Enfin, ça se jouait, mais c'était pas sympa. Enfin, tu vois, il y avait pas une sensation de ouais, j'ai passé un bon moment. Et là, en jouant avec les vraies règles, bah, c'est quand même vachement mieux.
Bah oui, forcément.
Je trouve que ça aide vachement.
Autre jeu, je dirais même l'un des bangers de ce printemps, God Five.
Ouais. Et ben, j'y ai joué et j'en attendais beaucoup parce que j'adore les jeux de déduction.
Ouais.
Et je reste presque sur ma faim.
Ah bon ?
Ouais.
C'est-à-dire
j'ai gardé le suspense, tu vois. Et ben j'ai trouvé ça presque trop facile, mais parce que je pense que je joue beaucoup aux jeux de déduction et je joue à des jeux plus compliqués. Par contre, donc pour moi, je pense que je suis pas le public.
Ouais.
Par contre, je pense que clairement pour tous les gens qui veulent essayer des jeux de déduction et même en classe, moi clairement, je vais l'acheter pour ma classe. Je l'ai dit à la boutique, je vais le prendre et je vais le mettre dans ma classe parce que c'est super comme outil pédagogique. Et après, pour rentrer dans le jeu de déduction, c'est super. Après, je passe des bons moments quand j'y joue. Mais systématiquement, avec ça, on finit en même temps.
En même temps ?
Quasiment. À un tour près. Et ce qui est toujours gênant, nous, c'est que c'est toujours le premier joueur qui finit.
Ah oui, mais attention, parce que dans God 5, c'est dès que t'as fini, tu dis. Hein.
Oui, bah oui, mais le problème, c'est qu'il lui manque toujours un indice au deuxième joueur, tu vois.
Ah,
genre l'indice de la fin, tu vois.
Ah oui, d'accord.
Donc moi, j'ai le mien. Par exemple, là, on a fait une partie avant-hier. J'ai le mien. Et du coup, je donne mon résultat aussitôt.
Ouais.
Et là, il me dit, attends, moi, j'ai juste besoin que d'une tuile et je l'ai aussi.
Ah,
et c'est lui qui a joué en deuxième. Donc, du coup, on a eu ce côté-là. Mais parce que je pense qu'aussi, on a joué à des jeux de déduction depuis...
Bah oui, si t'as fait tourner une machine et des choses comme ça, forcément.
Voilà. Et Seb, c'est un de ses types de jeux préférés. Donc, on en a fait vraiment beaucoup. Donc, voilà, je pense qu'on est juste pas public. Mais pour autant, je passe pas un mauvais temps quand j'y joue. Je passe un très bon temps. Mais j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin pour que moi, j'ai envie d'y rejouer encore et encore.
Ouais.
Par contre, on me propose une partie, sans souci, j'y rejoue.
On continue avec Très Cool.
Et bah, ce jeu, il est vraiment très cool.
Mais ouais. Je savais que t'allais me la faire.
Ah ouais, je crois qu'on va la faire pendant super longtemps. Mais ce qui est surtout chouette, c'est qu'en fait, je m'attendais à y jouer une fois et trouver ça sympa.
Mmh.
Et en fait, non. On y a joué, rejoué, rejoué et fait rejouer des gens, en fait.
Mmh.
Et je trouve que ça marche carrément bien. Et alors, c'est au début, je trouve ça rigolo. T'as toujours la même réaction chez les gens. Les gens, ils voient le jeu, ils se disent « Oh non !» Non, c'est pas possible, hein. Comment veux-tu qu'on devine ?
Ouais.
Tu retournes la plaquette des gens, tu dis non, mais c'est n'importe quoi, on ne comprend rien. Et après, tu vois les cartes et tu fais ah oui ! Et j'aime bien.
Alors, on y a joué ensemble à Cannes. Est-ce que tu fais autant de gribouillis ?
T'es en train de me critiquer mes grilles de bouillie, là?
Non, non, je voulais dire que tu faisais des œuvres d'art, Anne-Kaëlle.
Non, je suis archi forte. Je suis archi forte, hein, très cool. J'ai dessiné un clown, je l'enverrai en photo.
Ah ouais, je veux bien. Je veux bien,
j'ai
je veux bien.
Un petit monstre à côté de moi.
Et un petit monstre à côté de toi.
Mais...
On continue avec Archipel.
Oui, Archipel aussi, j'y ai joué. Et Luna y a joué aussi, d'ailleurs.
D'accord.
J'ai trouvé ça très chouette. Mmh. C'était le premier jeu que je lui proposais de construction un peu stratégique, puzzle. Surtout que là, on a une histoire de dimension avec
ouais.
L'agencement des tuiles. Et j'aime bien, moi, ce dilemme de bloquer la sélection, etc.
C'est ça, ouais.
Je trouve que c'est un excellent jeu familial. Mmh. Vraiment, la proposition, je la trouve chouette.
Très bien, Archipel. On continue avec ouais. Cozy Stickerville.
Ah, le banger de cette début d'année que personne n'a vu venir.
Mais oui, c'est ça, où on colle des autocollants.
Tout le monde voulait coller des autocollants ouais. et paf, plus de Cozy Stickerville parce que tout le monde a kiffé.
Mais ouais. Et alors, est-ce que tu as kiffé?
Ouais, c'est chill, c'est sympa. C'est pas révolutionnaire sur la mécanique, mais
on est d'accord,
très, très
c'est pas non plus le jeu de l'année. Parce que pour beaucoup, il y en a, ils disent c'est le jeu de l'année, on cherche même plus l'As d'or pour l'année prochaine. Il est là.
Je sais pas, ça rassemble, c'est fédérateur et c'est quand même une des choses de l'As d'or, tu vois.
Ouais, c'est
donc
vrai.
Je sais pas. Je trouve que c'est sympa dans le sens où ça n'a pas été spécialement proposé et ça va être le premier d'une série parce que
oui.
pour ce qu'on
oui.
vu à Cannes, il va y avoir des jeux qui arrivent avec des stickers, notamment
oui.
chez les enfants, etc. Enfin, moi j'ai vu chez Loki un truc trop chouette qui va arriver avec des stickers pour la rentrée. Donc en fait les stickers tu vois ça s'est fait, il y a déjà eu notamment le jeu de BA avec des stickers
mmh.
mais là c'est vraiment tout, enfin c'est encore autre chose et je pense que là ça va arriver, on va avoir une nouvelle vague un peu de jeux comme ça donc
ouais.
pourquoi pas, c'est assez fédérateur, en plus il y a eu des petits kits démo donc ça a permis au plus grand nombre aussi de tester le jeu donc pourquoi pas,
pourquoi
non
pas.
Je suis pas pourquoi pas, après l'année n'est pas finie hein.
Non
voilà
c'est vrai. C'est vrai,
on l'a
c'est
déjà
vrai.
Entendu ça, le « Ah, c'est le jeu de l'année
ouais. !»
Et après « Ah non, en fait, c'est lui le jeu de l'année !»
Ouais, c'est ça.
« Ah non !» Donc on verra.
Exactement. S'il faut en garder qu'un seul sur les cinq, tu gardes lequel?
Ah, j'ai déjà oublié lequel on a fait. Archipel,
alors, Cup the Crab, God 5, très cool, Archipel, Cozy Stickerville.
Enfin, je crois que je garde très cool.
Tu gardes très cool.
Ouais, okay. Je garde très cool parce que Cozy Stickerville, une fois que tu l'as fait, tu vois.
Mais oui.
Mais il faut le faire, je pense que, ouais, si vous avez l'occasion, c'est pas une boîte très chère. Et c'est sympa, ça passe des bonnes soirées quand même. Mais très cool parce que j'ai adoré tout ce qui se passe autour de la... Enfin, c'est dur cette semaine, c'est quand même des choix de jeu.
Et puis t'es une fille très cool, donc voilà, c'est top.
C'est pas très sympa.
Hein?
Ok, c'est pas très sympa de me demander, voilà.
C'est pas très sympa, je croyais que c'était pas très sympa, je disais que t'étais une fille très cool.
Ah oui, non. Ah bah non, ça tout le monde le sait. Il n'y a plus besoin de le dire. Bien entendu.
Allez, on se retrouve.
Allez, on vous souhaite une bonne semaine.
C'est pas la fête foraine.
allez, les amis, à la semaine prochaine.
C'est ludique, le plaisir de jouer à la radio.
Et dans C'est ludique, c'est le moment de retrouver Céline Grenier de Gros Games. Bonjour Céline.
Bonjour.
Alors, on va parler de la sortie de Troc. Une nouvelle fois, c'est un jeu de Bruno Catala et Serge Lagès. C'est un jeu aussi pour rendre hommage à Serge, je suppose.
Oui, effectivement. Et toute l'équipe est là pour rendre hommage, tant que ce soit l'éditeur, Bruno, et les illustrateurs. Donc, les illustrateurs, c'est Jean-Marie Minguez, avec qui il avait travaillé avec nous et avec Serge sur Nidavellir. Et aussi Pierrot, qui
oui.
souhaitait aussi rendre hommage à Serge.
Alors, comment est née l'idée de Troc? Est-ce que c'est un projet que vous aviez en tête depuis longtemps?
Alors, c'est une...
C'est une réédition?
C'est une réédition de Mundus Novus, mais par contre, ça a beaucoup changé depuis. Ça a été beaucoup simplifié, et puis remis au goût du jour, si on veut. Et c'est un jeu sur lequel ils travaillaient, Serge et Bruno... peu de temps avant son décès, il retravaillait justement dessus, donc c'était un bon moment pour sortir ce jeu.
On va parler du pitch du jeu, c'est alléchant la cupidité des nains atteignant le niveau de leur courage.
Oui.
Donc Céline, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la mécanique et l'ambition du jeu? Qu'est-ce qui va le distinguer des autres jeux de gestion ou de collecte de ressources?
C'est des nains qui jouent aux cartes. Déjà, c'est déjà pas mal,
ouais,
non? C'est
ouais,
dingue, non? Après, c'est un jeu d'échange, enfin de troc, comme on dit. Et c'est rapide, c'est taquin. Mm. Et en fait, on va donc aller faire des échanges, chercher des cartes chez les autres. On a le choix entre choisir. Enfin, on peut choisir qui on veut ou on va chercher des cartes. Et en plus, on peut échanger avec le marché. Donc, essayer de voir si quelqu'un part sur certaines combinaisons, aller lui piquer des choses ou se concentrer sur nos points ou nos améliorations, c'est taquin.
Trotch s'est présenté comme un jeu traditionnel du royaume de Nidavellir, oui. Bien sûr, joué dans toutes les tavernes depuis des millénaires.
Effectivement.
Comment vous avez créé cet univers et l'ambiance si particulière autour du jeu ?
Ouais, c'est toujours un peu ça. Dans nos jeux, en fait, on essaye de créer vraiment un bon univers. Mais on est parti déjà de l'univers de Nidavellir qui était déjà assez complet. D'ailleurs, si vous allez sur le site internet, on a toutes les histoires des nains de Nidavellir. Et en fait, on a continué là-dedans. On voulait vraiment faire le poker des nains, en fait. Et
ouais.
C'est vrai que c'était une idée qu'on avait depuis longtemps. Et là, avec ce jeu-là, en fait, ça se prêtait vraiment bien. Bruno, quand il nous a présenté le prototype, quand il l'avait retravaillé, c'était des animaux de la ferme, je crois.
D'accord.
Et c'était difficile, du coup, de se projeter. Au début, il nous l'a présenté. On s'est dit, ouais, il y a quelque chose, c'est bien, mais...
Mais pas avec des animaux de la ferme.
Oui, voilà, ça nous parlait pas plus que ça. Et du coup, Flo, il s'est dit, mais quand même, ça serait quand même cool dans l'univers de Nidavellir avec des nains et tout. Et du coup, il l'a proposé à Bruno. Il était là, je n'osais pas te le demander, mais en fait, c'est chouette.
Ah oui, d'accord.
Ils le voyaient tous les deux. Et en fait, nous, les prototypes, quand on a testé, au tout début, on a testé quand même avec les animaux de la ferme. Et on a dit à nos testeurs,
quoi,
qui sont nos animateurs, on leur a dit, projetez-vous, dites-vous que vous êtes des nains et qu'on achète des améliorations et tout ça. Et là, effectivement, tout a pris son sens, en fait, dans le jeu.
Ouais. Au moment de sortir Troc, comment vous avez ressenti l'importance de rendre aussi hommage donc, à Serge, tout en lançant un jeu compétitif et fun?
C'était Serge, quoi.
Ouais.
Serge, il était comme ça. Serge, c'était la joie de vivre, en fait, tout le temps. Son rire, je crois que je l'entends encore. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment lui rendre hommage. Et puis il était taquin, vraiment, en fait. Enfin, c'est vraiment... Ce jeu, c'est vraiment lui. C'est,
ouais.
C'est taquin, c'est joyeux, c'est... Et puis bon, on a mis du temps à se repencher sur certains jeux.
Oui.
On en a encore, au final, des jeux sur lesquels on travaillait. Mais y en a certains, on n'a pas réussi à ouvrir la boîte encore.
D'accord.
Mais d'autres où on arrive quand même à travailler là-dessus. Mais on se souvient surtout des bons moments qui nous permettent justement de jouer à ça et de se dire, lui, il aurait fait ça. On va jouer comme ça, en fait.
C'est comme ça. Ce jeu mêle stratégie et humour donc dans un univers fantastique. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que Troc saura séduire les joueurs familiaux comme les joueurs un petit peu plus aguerris, un petit peu plus...
Je pense que effectivement ça va séduire les joueurs aguerris et tous les joueurs de Nidavellir, en fait, déjà ne serait-ce parce que par les illustrations et par tout ça, même s'il y a Pierrot en plus au final. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont trois, en fait.
Oui.
Parce que du coup il y a Pierrot qui nous a fait
c'est
Bruno Tati. Donc on a Pierrot qui nous a fait les objets, Jean-Marie qui nous a fait les nains et les naines, et Bruno Tati qui s'est occupé de toute la colorisation, parce qu'on avait besoin, parce que Jean-Marie et Pierrot n'ont pas forcément les mêmes façons de traiter la couleur.
Ouais.
On s'est dit, il nous faut quelqu'un qui traite la couleur et ça, pour que ça pète.
Ouais,
voilà.
Ouais.
On a appelé Bruno Tati, avec qui on avait déjà travaillé, pour harmoniser tout ça. Et franchement, c'est cool.
Alors, on rappelle, dans Troc, il y a deux conditions de victoire.
Oui.
Est-ce qu'il y en a une qui est plus simple que l'autre? Alors déjà, est-ce que tu peux nous rappeler les deux conditions de victoire?
Ouais, les deux conditions de victoire, c'est soit on a 50 arts, donc 50 points ou pièces,
ouais,
suivant comment on parle, à la fin d'un tour, on annonce et tout le monde compte ses points. Et s'il y a quelqu'un qui a plus de 5, enfin celui qui a le plus de points gagne la partie. À partir de 50, bien sûr. Et la deuxième façon, c'est d'avoir la combinaison parfaite. Et pour avoir la combinaison parfaite, il faut faire une suite de 1 à 7 plus un joker. Et effectivement, celle-ci, elle est un peu plus dure, mais on gagne en instantané.
Oui, c'est-à-dire,
on ne compte même plus les points,
c'est
on gagne en instantané. Elle est plus dure, pourquoi? Parce qu'au début, on commence avec 5 cartes. Et en fait, pour faire cette combinaison, il en faut 8.
Donc
du coup, il va falloir vraiment faire des combinaisons pour pouvoir récupérer des aménagements, des améliorations, pardon, et qui vont nous permettre d'avoir des cartes
en plus,
un peu plus
à chaque début de tour.
Pour les passionnés qui attendent Troc, on le voit à Cannes, parce qu'on enregistre cette émission à Cannes. On le voit là, il y a donc les dédicaces.
Oui.
Il y a énormément de monde qui attendent une dédicace de Bruno Catala. La rejouabilité, les moments forts qu'ils vont vivre autour de la table.
L'expérience du jeu, effectivement, on va gagner en expérience en faisant plusieurs parties. On va être plus rapide, plus taquin aussi. On va réussir à faire des combos plus sereines et plus efficaces. Et la rejouabilité, en fait, que ce soit au niveau du marché, enfin au niveau des gens, en fait, ça va changer tout le temps. Et même suivant avec qui on joue, en fait, tout le monde ne joue pas pareil. Et c'est un jeu d'opportunisme, en fait. Ouais.
Et puis selon les nains qu'on va obtenir aussi.
Les nains qui sont disponibles, en fait, surtout si on arrive à les attraper. Du coup, toutes les parties vont vraiment être différentes. Et puis, avec l'expérience, on va aussi réussir à bloquer un peu plus les autres, alors qu'au début, on laissait des choses passer. Mais après, on va être un peu plus vigilant aussi sur le jeu des autres. Ouais.
Merci beaucoup, Céline Nord. Troc, c'est donc bien plus qu'un jeu de stratégie ou de collecte de richesses. C'est un hommage vibrant à Serge Laget, une aventure ludique au royaume de Nidavellir. Merci.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Et dans Cellule Ludique, c'est le moment de retrouver Béa du magasin Terre de Jeux à Nantes. Salut Béa.
Coucou Matt, salut tout le monde. Comment ça va bien?
Bah ça va bien et toi?
Bah nickel, bien remis de Cannes.
Ouais, ça va, c'est intensif Cannes, hein, j'ai envie de te dire.
Ah bah tu dors pas beaucoup, ça c'est sûr.
Ah non, tu dors pas, non, ça c'est sûr. Donc, on va revenir sur les jeux que j'ai présentés il y a un peu plus d'un an. Tu vas me dire toujours s'ils sont toujours dans ta ludothèque ou pas, si ça se vend toujours. Et on va commencer avec un jeu que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Stone Pine Architect.
Eh bien, la même que toi, figure-toi. Donc, c'est un jeu de Jordi Hazan, illustré par Luca Ribeiro et Damien Mamoliti, qui a aussi fait Cozy Speakersville, Diego Sa, et c'est chez Intrafin et Stone Pine Architect. Il a un petit peu popé comme ça, la mine de rien. Il est arrivé sur la table avec son matériel qui est super chouette et sa mécanique qui est vraiment top. On est dans l'univers de cartographeur. Faut surtout pas se fier à la cover parce que, elle est pas du tout représentative du jeu. On est sur un jeu de draft dans lequel on va devoir construire son donjon. Et donc pour ça, eh bien, on va drafter une première fois pour faire le premier étage, puis une deuxième fois pour le deuxième, puis une troisième fois, et ainsi de suite. Sur chaque carte, eh bien, il y aura des chemins, forcément puisqu'on est dans un donjon, il y aura des monstres, des coffres et des pièges. Et en fait, ce qui est hyper chouette, c'est qu'à la fin de chaque manche, en fonction des pièces qu'on aura récupérées, eh bien, nous allons avoir accès à un marché qui va nous donner des petits tokens qui seront des nouveaux pièges, des nouveaux monstres. Et tout ça dans le but de quoi? De réaliser des objectifs. Des objectifs qui vont être un objectif final qui sera une carte qu'on aura reçue au début du tour qui va nous demander d'avoir certains items à certains endroits. Mmh. Et des objectifs que l'on va devoir prendre entre chaque manche. Et le truc c'est que soit je vais au marché, soit je prends ces objectifs et donc du coup il y a un petit peu de dilemme. Eh bien c'est ultra fluide, c'est pas si compliqué, mais j'ai trouvé que personnellement en tout cas, ça renouvelait un peu le genre du draft. J'ai pas vu beaucoup de jeux comme ça.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça hyper chouette.
Non, vraiment sympa, Stone Pine Architect.
Ouais. Donc, et ça, pour c'est... le coup, il fait toujours partie de ma ludothèque.
Et est-ce que ça se vend toujours?
Alors, beaucoup moins bien, parce que malheureusement, on sait qu'actuellement, un jeu, pour qu'il continue de se vendre dans la durée, il faut qu'il y ait une très grosse hype. Mm. Donc là, il se vend un petit peu moins bien. Et malheureusement, bon, ça n'empêche pas de le pousser.
Ouais.
Il est possible qu'on ne le voit plus dans les boutiques dans quelques mois.
On continue avec Forecrone, un bon jeu d'enfoiré.
Et oui, donc Forecrone de Maxime Rambourg, illustré par Paul Mafaillon qui est chez Repoprod. Donc c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière pour deux raisons. La première, la plus évidente, parce qu'il avait été nommé à l'As d'Or. Et la deuxième, c'était un jeu qui tranchait et qui tranche toujours, puisque depuis quelques années, nous sommes dans une mouvance un peu feel-good au niveau des jeux de société.
C'est ça.
Et bien là, c'est un jeu dans lequel, eh bien, on s'en met plein la tête. C'est un jeu de deck building commun, et ça aussi, c'est assez innovant. On va acheter des cartes qui vont nous permettre d'avoir des actions qui vont être clairement là, principalement pour pourrir les autres. Le but du jeu étant d'avoir un maximum de rubis, les actions, donc devoir faire perdre des rubis à quelqu'un. Je vais pouvoir gagner des thunas, je vais pouvoir avancer sur la piste de réputation ou faire reculer quelqu'un, et je vais pouvoir coller des ratons à quelqu'un, ratons qui vont aussi faire perdre des rubis. Eh bien, c'est vraiment un jeu exact, tu sais dans quoi tu vas, et c'est génial.
Ouais,
à savoir que récemment, il a eu le prix du double 6, c'est-à-dire du festival de Saint-Herblain à Nantes, qui est un prix du public.
Mais oui, Morgane nous en avait parlé,
exactement.
Je m'en rappelle. Et puis non, ça marche bien. Alors ça marche pas avec tout le monde, et il faut vraiment qu'il y ait une ambiance autour de la table.
Ça crie et tout, dès qu'on te pique tes rubis.
Enfin bon, c'est...
Ouais, exactement. Non. Comme j'ai dit, c'est un texte, t'as des gens, ils aiment pas du tout ça. Mais là, voilà, c'est clairement ça. Et oui, il est toujours en rayon, et oui, il est toujours dans ma Ludo.
Oui, bah ça m'étonne pas, celui-là. Ouais, je pense qu'il va rester un petit moment en rayon.
C'est ça.
On a un jeu un petit peu surprenant, ce qui s'appelle Régicide.
Et oui. Régicide, pour le coup, c'est un jeu dont on avait entendu pas mal parler avant sa sortie. C'est un jeu que Playpunk, je ne sais pas si ça te parle, cette petite maison d'édition, voulait absolument localiser, mais il n'avait pas réussi. Donc c'est un jeu de Andy Rijdal, de Luc Badger et de Paul Abrahams, qui est illustré par Sketch Goblin, DJ Philippe, et c'est chez Yellow. Donc Régicide, c'est un jeu qui est pour moi incroyable, qui est une épure et surtout une leçon en termes de game design. On est sur un jeu de 54 cartes, très clairement. Mais un jeu de 54 cartes dans lequel, coopérativement, il va falloir tout simplement battre les figures. Donc, c'est-à-dire d'abord les 4 valets, puis les 4 dames, puis les 4 rois. Et si on arrive à faire ça, on gagne. Inutile de vous dire que vous n'y arriverez pas tout de suite. Hein,
c'est sûr.
Pour
c'est
ça, long, les joueurs vont avoir... Exactement. Les joueurs vont avoir des cartes en main. À ton tour de jeu, tu vas jouer une carte. Cette carte, la valeur va, par exemple, si je joue un 10 sur un valet qui a 20 points de vie, je vais détruire, donc je vais baisser ses points de vie à 10, mais lui-même va m'attaquer, il va falloir que je me défende en défaussant des cartes. Le truc, c'est que chaque couleur, donc As, Cœur, Pique, Trèfle, vont m'octroyer des pouvoirs. Le Pique va me permettre de me protéger, le Trèfle va me permettre de doubler l'attaque, le Carreau va me permettre de repiocher les cartes, parce que si à un moment donné, je n'ai plus de cartes à défausser lorsque l'on m'attaque, eh bien, je perds immédiatement la partie. Et le cœur va permettre de rajouter des cartes de la défausse dans la pioche, parce que si à un moment donné, je dois piocher qu'il n'y a plus de cartes, c'est perdu aussi. Eh bien, c'est hyper malin, il y a plein d'autres petites règles qui sont hyper chouettes. Et vraiment, c'est une pure merveille en termes de game design. C'est hyper challengeant. Bref, c'est super chouette, quoi.
On continue avec un jeu de plis coopératif autour de la licence Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de plis.
Exactement, donc ça c'est un jeu qui a aussi un petit peu marqué l'année dernière. C'est un jeu qui est déjà, on peut le dire, absolument magnifique, qui est de Brian Bornmulder et chez Office Dog, d'ailleurs je ne l'ai pas dit. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment c'est un parti pris en termes d'illustration. Ce n'est pas le Seigneur des Anneaux comme on a l'habitude de le voir, déjà ce n'est pas des images du film. Et ensuite ce n'est pas Paul Dutré, puisque Paul Dutré... Ce n'est pas Vincent Dutré qu'on a effectivement pris l'habitude de voir, notamment grâce au Seigneur des Anneaux Duel. C'est un truc qui est totalement différent et qui sort de l'ordinaire. Donc super chouette à avoir en main, très bel objet. Et ensuite de ça, mécaniquement, effectivement, nous sommes sur un jeu de plis qu'on peut rapprocher de The Crew, mais que j'ai trouvé personnellement moins difficile, mais qui va rajouter aussi un contexte de scénario, donc dans lequel vous allez suivre du coup la communauté de l'anneau, vous allez découvrir des nouveaux personnages, et ce sont ces personnages qui vous apportent des missions. Donc c'est un jeu qui est vraiment très chouette et que je recommande chaudement, et il est toujours... toujours à la boutique.
Ouais, donc là... Ah oui, je t'ai pas demandé pour Régicide, du coup.
Régicide aussi est toujours à la boutique, est toujours dans ma Ludo. Et là, on peut noter aussi que du coup, tu as le deuxième cette année, les deux tours, le jeu de plis qui est sorti.
Qui est plus compliqué.
Et l'année prochaine,
hein.
Qui est plus compliqué, ouais. Et l'année prochaine, du coup, tu auras le retour du roi.
Ah bah oui, ils vont continuer, forcément.
Bah oui, c'est sûr. Donc, c'est...
Eh bah super, merci beaucoup, Béa. Voilà.
Eh bien, je t'en prie, c'est tout à fait normal, Matt.
Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir, à bientôt. Repose-toi bien encore si tu as encore un manque de sommeil.
Ouais, merci, salut.
C'est ludique, le plaisir de jouer à la radio.
Et dans C'est ludique, pour clôturer cette émission, c'est le moment de retrouver Morgane du Carnet des Geekeries. Salut Morgane.
Salut.
Ça va bien depuis Cannes?
Oui, ça va, Roy, bah, et toi?
On se remet hein, petit à petit, hein,
c'est ça.
C'est dur, hein. c'est dur.
C'est de plus en plus dur.
Alors Morgane, aujourd'hui on va parler à même d'un gros jeu qui s'appelle Wondrous Creature.
C'est ça, ouais, c'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière, ça continue encore à le faire aujourd'hui. C'est un jeu de YMCW illustré par Sophia Kang et ça a été localisé en France par Super Meeple. Dans ce jeu, en fait, on débarque sur une île mystérieuse qui est peuplée de nombreuses créatures plus mystiques les unes que les autres, dont personne ne soupçonnait l'existence. Et en fait, grâce à nos explorateurs, on va aller découvrir cette île, en percer les mystères et donc adopter plein de nouvelles créatures. On a du coup 3 explorateurs, mais on a aussi un capitaine qui ne sera pas débloqué tout de suite. Et en fait, pendant un tour, c'est très très simple. On peut réaliser qu'une seule action de base parmi 4 disponibles.
Okay.
Donc, soit on va aller placer un de nos explorateurs sur l'île pour nous permettre de récupérer des ressources ou des cartes qui contiennent les ressources qui sont adjacentes en fait à notre explorateur. T'as des petites ressources qui sont dessinées sur le plateau.
D'accord.
Sinon, on peut jouer des cartes de notre main à condition qu'on soit en capacité de payer les ressources nécessaires. Troisième action possible, c'est de réaliser un objectif. Donc là, c'est une vraie source de points importante parce qu'elle va aussi faire avancer la partie. En fait, puisqu'à chaque objectif récupéré, on récupère un trophée. Et à la fin des trophées disponibles, c'est la fin de la partie. Donc c'est aussi un peu une petite course à l'objectif qui s'enclenche.
Mmh.
Et enfin, dernière action possible, c'est celle de recharger. Donc là, on récupère tous nos explorateurs qu'on aura placés auparavant dans notre réserve. Et en fait, avec cette action, on avance aussi le sablier qui permet de placer des nouveaux œufs et ou de récupérer un filet à papillons. Parce qu'il y a des œufs dans le jeu, il y a des petits œufs qui vont éclore, on va en récupérer sur le plateau. Si notre explorateur, en fait, il se pose sur une case qui en contient déjà un, ou qu'on arrive à l'attraper avec un filet à papillon si on est adjacent. Et en fait, ces œufs, ça nous apporte des symboles qui sont nécessaires pour les objectifs, mais ça nous permet aussi d'avancer sur notre piste à œufs personnelle qui nous peut nous rapporter des points de victoire et des autres bonus tout au long de la partie. Donc du coup, on va enchaîner les tours comme ça. On a un moteur qui va se mettre en place petit à petit.
Ouais.
Et surtout, les cartes créatures qu'on va obtenir, elles vont nous rapporter des effets. Alors, soit des effets immédiats one-shot, hein, des trucs que tu actives une seule fois, soit des effets permanents, soit des points de fin de partie. Et après, on a notre capitaine. Donc lui, on va le débloquer quand on aura réalisé un premier objectif et il va nous apporter un effet unique. Et là, il y a un côté asymétrique parce que chaque joueur aura un pouvoir différent avec son capitaine. Il y a plusieurs capitaines dans la boîte. Et du coup, à la fin de la partie, on va cumuler les points entre nos points rapportés par les effets de fin de partie des créatures, les points des créatures en elles-mêmes qui ont aussi des points de victoire dessus, les points qu'on aura accumulés pendant la partie puisqu'on va en récupérer tout au long de la partie, et du coup, les objectifs et les trophées récupérés. Franchement, quand on l'explique comme ça, ça paraît hyper simple, hein, parce que ça l'est. En fait, il est hyper accessible comme jeu. À première vue, j'ai rapidement eu un effet waouh sur le matériel, la couverture, toute la direction artistique du jeu.
Alors, j'y ai pas joué, moi, mais j'ai l'impression d'avoir vu plein de Pokémon partout.
Oui, c'est ça. Ben voilà, t'as les illustrations des créatures, t'as le matériel, même les noms choisis par le traducteur pour les créatures en français sont vraiment chouettes parce qu'il y en a énormément, il y en a plus de 200 dedans, donc il a fallu quand même faire tout un travail là-dessus. Et en fait, on a un côté doux, on a un côté très Pokémon aussi, du coup, comme tu le dis, parce que on a toutes les créatures différentes. Le matériel, il est hyper classe. On a même un explorateur qui est aimanté et qui va accueillir le capitaine dessus. Bref, voilà, ça peut paraître des détails, mais c'est toujours le genre de petit détail qui fait plaisir et qui est satisfaisant quand tu joues. J'ai mis du temps à l'essayer. Je regrette pas d'avoir mis le nez dedans. Pour le coup, on a découvert les règles en même temps qu'on a découvert le jeu. En fait, on a ouvert la boîte, on a lu les règles, on était les trois à jouer. Et en fait, on n'a pas eu besoin de retourner dans les règles.
Ouais, ça,
et c'est vrai
bien.
Pour un jeu de cet acabit, c'est toujours bien de le souligner, c'est que à part des petites précisions sur certaines créatures dans le glossaire, les règles, c'était hyper fluide et hyper accessible. Mais forcément, la DA, elle fait pas tout. Donc derrière, on espère quand même d'avoir un jeu sans défaut du côté mécanique. On se retrouve avec des mécaniques connues quand même, avec du placement d'ouvriers, de la gestion de ressources, l'effet sur nos cartes, qui tient vraiment bien la route et ça reste accessible. Il n'y a pas de superflu. En fait, on sait qu'on fait une action obligatoire à notre tour. Les tours, ils s'enchaînent après derrière. Par contre, le moteur, il peut être un peu long à se mettre en route. C'est vrai que pour ma première partie, par exemple, on a pris un long moment avant de débloquer les premiers trophées et donc les capitaines. Et en fait, la piste du sablier, elle permet aussi d'avancer plus vite la partie. Puisque quand tu arrives au bout de cette piste, les trophées, ils vont s'enlever au fur et à mesure que les joueurs rechargent. Donc ça permet quand même d'accélérer un peu la partie. Mais c'est vrai que même si on fait qu'une action par tour, enfin une action obligatoire, on a un choix qui peut rapidement devenir casse-tête pour optimiser du mieux possible ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite récupérer comme ressources, et gérer en même temps intelligemment le placement de chaque explorateur, parce que les effets des cartes, ils vont se combiner entre eux. Ça ne sera pas de la simple collection où on veut juste avoir des points. Là, vraiment, on sait qu'il y a des cartes qui combattent entre elles et qu'il faut qu'on arrive à les récupérer pour marquer le plus de points possible. Là, par exemple, nous, on avait un joueur qui était à fond sur les œufs. Et il faisait des points à chaque fois qu'il retournait ses œufs. Donc,
il
avait 3 ou 4 cartes comme ça. Et du coup, dès qu'il retournait un œuf, il cartonnait. Côté interaction, il y en a peu. Hein. On la retrouve surtout sur le placement de nos explorateurs, sur le choix de nos cartes. Il y a une course aussi à l'objectif parce que tous les joueurs n'auront pas d'emplacement dessus pour les réaliser. Donc, forcément, plus vite on réalise, plus on aura de points. En fait, Wondrous Creature, ça a été une belle surprise, tant mécaniquement que visuellement. T'as quand même une profondeur de jeu, mais qui reste fluide sans traîner en longueur pour autant. On a un côté satisfaisant à voir ces combos de cartes qui se réalisent petit à petit, à voir la montée en puissance aussi de notre moteur et avoir de plus en plus de possibilités. Moi, j'ai envie d'y retourner. Puis c'est vrai que entre le nombre de créatures, les objectifs disponibles et les capitaines qui ont tous des pouvoirs asymétriques, t'as de quoi renouveler les parties sans aucun problème. Et pour un jeu qui est catégorisé expert, moi, je le verrais plus initié plus, parce que clairement, ouais. Une fois que t'as les règles, c'est fluide. Hein. Tu peux y aller sans problème. Alors, il y en a beaucoup qui le comparent à Ark Nova, en disant que c'est un Ark Nova Light,
d'accord.
En fait, qui est sorti. Mais c'est vrai qu'il est clairement très accessible.
Ok, donc Wondrous Creature. C'est bien, Morgane, parce que tu as le temps de faire des jeux un petit peu plus anciens, même si c'est sorti l'année dernière, avec toutes ces nouveautés qui sortent chaque semaine.
Ouais, c'est l'avantage aussi d'avoir la ludothèque pas très loin, c'est qu'on on s'oblige aussi à sortir pour les vendredis publics les jeux de la ludothèque.
D'accord.
Les jeux plus anciens. Et c'est cool parce que des fois on découvre vraiment des pépites. Là, mais j'ai jamais joué à ça et pourtant c'est ultra connu, hein, mais. Voilà, tu découvres plein de trucs, genre Dystone, je l'ai découvert hyper tard, alors
d'accord.
que j'ai la boîte depuis des années, mais j'y avais jamais joué. Mais voilà, c'est aussi l'occasion de sortir des anciens jeux, et ça fait du bien aussi de voir que voilà, il y en a plein d'anciens qui marchent très bien encore aujourd'hui.
Merci beaucoup Morgane, t'as prévu de jouer à quoi ce week-end ?
Eh ben, je sais pas encore. Figure-toi que je ne sais pas, il y a des petits jeux de cannes là quand même qu'on a ramenés qui me tentent bien.
Ouais.
J'ai bien envie de faire du Yokohama Duel, que j'ai jamais essayé.
Ah oui, très bien Yokohama Duel.
Ouais. Et je pense
t'avais joué à Yokohama ?
Non, il me tentait beaucoup et je me suis jamais mise dedans parce que je le trouvais trop gros, trop gros jeu, j'avais un peu trop peur du truc quoi.
Ah ouais, mais
donc,
non, ça
passe bien. Commencer par la version duel, ça peut être cool en fait.
Ouais.
Donc,
top.
Donc ouais, non, je pense que ça va être ça et puis peut-être du Morty Sorty Shop.
Oui.
Je sais plus.
Ouais. Le jeu là où on va retrouver un petit peu la mécanique de Welcome.
Ouais, c'est ça.
Très bien, très bon week-end, Morgane.
Merci, toi aussi.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Ça marche.
Salut.
Salut.
Voilà, les amis, c'est ludique, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bien entendu lundi pour Un jour, un jeu et pour la grande émission samedi. En attendant, jouez bien. Salut.